voici. Le journal, demandez-le le journal du jour, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, le journal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au journal.
Bonjour,
bonsoir.
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 Et bonsoir.
Et bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Il est...
C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson...
Allô, allô.
Ah, ça y est.
Est-ce que... Ah, ça y est, ça marche. Il est 19h passé de 8 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Ce soir, de quoi on va parler?
Ah, ce soir, après quelques brèves, bien sûr, on va parler des médecins libéraux qui ont gagné au loto, en quelque sorte.
On vous proposera un petit week-end pour aller se faire mutiler à la manif contre la 69.
Et puis, l'externalisation des frontières européennes prend forme en Albanie.
Et puis, un petit point sur le Kurdistan.
Ah bah non, c'est toi qui dois y aller parce que c'est toi qui as des brèves.
Ah ouais, j'ai pas de brèves moi.
Pourquoi il marche pas? Ah ça y est, il marche. Pardon. Alors, j'ai des brèves. Et tac tac tac. Attends, ça m'arrange pas du tout. Il y a que moi qui ai des brèves.
C'est ah, il y a que toi, il y a que
putain. Alors. Bon, alors, eh ben, on rigole, mais c'est pas drôle. Et si on se dézoome un tout petit peu autour de notre nombril, on s'aperçoit que la situation météorologique actuelle en France est assez anecdotique par rapport au reste du monde. Quand je dis actuel, c'est parce que vous savez, il pleut, on se plaint, il fait
t'es
froid, il n'y a pas
de
printemps.
Sous forme de brève, un truc dont je vais parler plus tard, quoi. Mais c'est pas grave. Balance.
Non, non, vas-y, tu peux. Attends, tu vas parler de quoi? Tu vas parler du fait que c'est la cata.
Ouais, c'est la cata. Ouais.
Alors attends, je te tease parce que du coup, tu parles de l'agence Copernicus.
Non, vas-y.
Et ben, du coup, qui annonce que le mois de mai a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, mais que c'est bien le 12e mois consécutif avec des températures records au niveau de la planète. Est-ce qu'il s'agit d'un phénomène exceptionnel? J'imagine que vous avez la réponse. Pas vraiment, si on en croit l'Organisation Météorologique Mondiale et l'Office Météorologique du Royaume-Uni qui viennent de publier des prévisions climatiques annuelles pour la période 2024-2028. Et dans son long rapport, que je n'ai pas lu bien sûr, on apprend qu'il est fort probable qu'au moins une des 5 prochaines années sera la plus chaude jamais enregistrée, battant donc le nouveau record actuel détenu en 2023.
Ah, c'est même plus que ça, c'est qu'en fait c'est à peu près certain que chaque prochaine année sera la plus chaude jamais enregistrée, mais c'est qu'au moins une des 5 prochaines années aura dépassé le fameux seuil des 1,5 degrés qui était prévu pour la fin du siècle après l'accord de Paris en 2015.
Ah, toi t'es encore plus optimiste que moi, ce que je vois. Bon, alors l'agence Copernicus, qui ne veut pas tomber dans le c'est trop tard ? Bien sûr, parce que sinon après ça pousserait à nous prendre plus de médocs. Averti que ce qu'on imagine déjà, pas de signe de changement de cette tendance. Hein. Nous vivons une époque sans précédent, elle précise. Mais elle précise également qu'il n'est pas non plus impossible d'agir en stabilisant les concentrations de gaz à effet de serre. Vous savez, ces célèbres gaz à effet de serre produits par les activités humaines et responsables du réchauffement climatique. Et cette fois-ci, ben, on se recentre un petit peu sur Lyon et plus précisé, enfin, non, plutôt sur Vénissieux. Et on va parler de violences policières. Alors que la BST intervenait à Vénissieux dans le quartier Ambroise-Courroisa mardi soir, un jeune buraliste de 19 ans a eu le tort de se plaindre de l'odeur de lacrymo. Très rapidement, les flics déboulent. Donc ça, c'est parce que, hop, opération policière, les flics gazent un peu de partout et le jeune se plaint.
Il se plaint de l'odeur de lacrymo qui était dans son magasin, en fait.
Oui, c'est ça. Et enfin bon, même si c'était pas dans son magasin.
Tout à fait.
Sur ce, les flics déboulent très rapidement, parce qu'à priori, ils étaient quand même juste à côté. Dans le commerce qu'il gère avec son père, les flics sortent le taser, tasent une personne, extirpent le jeune du tabac et le mettent à terre et le frappent à plusieurs reprises, enfin le frappent violemment à terre. Plusieurs vidéos tournent sur les réseaux sociaux, mettant à mal la version policière qui, comme à son étude, parlait d'usage de la force nécessaire, je les cite, face à un individu violent qui se rebellait et luttait au sol. Bon, sauf que les vidéos montrent très clairement une personne au sol cherchant à se protéger et ne donne aucun coup. Un rassemblement s'est tenu aujourd'hui à 14h devant le bureau de tabac en question. Et sur les réseaux sociaux, un autre appel à manifestation doit se tenir ce soir à 20h à Vénissieux, sans que j'ai plus de détails.
Et juste une toute petite précision sur les faits. On peut voir dans la vidéo quand même que le policier qui frappe la personne à terre, quand elle se retourne et qu'elle voit qu'elle est filmée, elle remonte son cache-col pour qu'on ne voit plus que ses yeux et continue à frapper l'individu à terre.
Oui, c'est ça.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Alors, on vient en France puisque c'est un accord français qui a été signé et c'est les syndicats et l'assurance maladie qui ont signé la nouvelle convention qui revalorise les tarifs de consultation. Alors, si vous imaginez que dans cette information, on va toucher aux hôpitaux, qu'on va améliorer vos conditions d'accueil aux urgences, et ben pas du tout. Sans rentrer dans les détails. La consultation passe, qui est aujourd'hui à 26,50€, elle passe à 30€ pour les patientes et les patients les plus complexes dans leur pathologie. Elle peut monter jusqu'à 60€. L'assurance maladie a tout lâché face aux revendications d'une profession qui n'est pas à plaindre. En 2022, durant les négociations, le passage en 30€ était pourtant conditionné à une augmentation de la patientèle. Voyant qu'il manque de médecins généralistes partout en France, ils se sont dit, bon, au moins, ok, on vous lâche un peu de pognon, mais vous gonflez un peu votre patientèle. Et ben, pas content de cette condition, les syndicats avaient refusé de signer, l'assurance maladie a plié. Donc là, vous verrez que les syndicats sont capables de faire plier l'assurance maladie, c'est important pour la suite de l'information. D'après le syndicat MG France, pourtant pas le plus à droite de la profession, mais qui a signé, cela représente une augmentation moyenne du chiffre d'affaires de 20 000€ avant cotisations et charges. J'ai fait un petit calcul. 20 000€ divisé par 12 pour les mois de l'année, ça fait 1 666 € brut.
Voilà. Non, mais c'est bien parce que les médecins, c'est dur pour eux.
Oui.
Et tu sais, oui. Cet argent, ils ne se le mettent pas en entier dans leur poche. Hein. Il y en a au moins.
C'est vrai.
Quelques dizaines d'euros dont ils sont obligés de se servir pour payer leur loyer, leur secrétaire.
Ouais, mais peut-être qu'il y en aura même la moitié. Mais c'est vrai que, je sais pas, vous avez déjà négocié 1600 euros d'augmentation brute, vous ? Enfin, je sais pas, c'est déjà. Non. Vous, les pauvres, vous pouvez toujours aller manger vos morts et tenter de gratter une augmentation de 50 euros par mois sous forme de prime. La rémunération des médecins libéraux est un véritable millefeuille. Faut pas croire qu'il et elle touchent seulement le prix de la consultation à la fin du mois. Donc ça, je veux dire, avant l'accord, avant cette nouvelle convention, tout un tas de rémunérations existaient déjà. Et là, ça revalorise encore certaines. Par exemple, tout simplement, les généralistes perçoivent un forfait médecin traitant qui a également été revalorisé. Alors, ce qu'on appelle le forfait médecin traitant, c'est quand vous dites que vous avez un médecin traitant, que vous déclarez votre médecin traitant, ce médecin traitant touche une somme entre 5 et 100 euros par an et par patient en fonction de la complexité de sa pathologie. Donc c'est-à-dire qu'en fait, à la base, ils étaient déjà un peu incités par ça à augmenter leur patientèle. À cela s'ajoute tout un tas d'autres valorisations en fonction de quelle case il et elle coche pour une consultation. C'est-à-dire que par exemple, si la personne est suivie pour certaines pathologies ou s'il lui a prescrit, un dépistage d'un cancer qui est une recommandation nationale, et ben ça, hop, tout ça, ça fait des valorisations en plus. Il y a également des aides à l'installation dans les déserts médicaux. Il y a aussi, tu parlais de secrétaire médical. Ils vont avoir, dans certaines conditions, j'imagine dans les déserts médicaux, ou s'ils s'installent avec tel praticien, bref, des possibilités de toucher des aides conséquentes pour des secrétaires médicaux. Bref, les contreparties dans tout ça sont faibles. Mais il y en a des contreparties que les syndicats ont décidé de ne pas menacer, de ne pas signer. Alors ce sont, pour la première, plus de pertinence dans les soins. Donc ça veut dire, en gros, c'est pas genre soigner mieux les gens, mais un peu. C'est pas d'ordonnance à rallonge, moins d'antibios et moins d'antibios et d'examens biologiques inutiles, et favoriser les transports sanitaires collectifs. Bon, pour certaines mesures, on a envie de dire pourquoi pas. Dans les détails, j'en sais rien, j'imagine
pour d'autres, ça a l'air naze, cette histoire de transport médical collectif. Oui. Ça a l'air d'être une sacrée grosse connerie.
C'est ça, disons que... Bon, mais... Par contre, c'est quand même... Cette bande de crapules organisées ont quand même accepté, en échange d'un joli petit billet, « ralentir l'évolution du nombre de jours d'arrêt de travail de 2% par an ».
Ah ouais.
Ouais. Les affections de longue durée sont également concernées. Donc c'est les fameuses ALD là où je sais pas, le gouvernement veut faire la chasse aux arrêts de travail, aux arrêts de longue durée. C'est quand même les gens qui.
Longue durée, c'est les gens qui ont un cancer.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est vrai, ceux-là, ils bossent pas assez quand même.
Voilà. Et en gros, pour ces ALD, les médecins devront être plus sélectifs sur ce qui est pris en charge par les ALD ou pas. Enfin, ça, c'est un peu technique, j'ai pas tout compris. Mais en tout cas, il s'avère que sur ce dispositif ALD, le médecin a un levier de dire, ça correspond à son ALD ou pas, j'imagine. Et voilà. Donc, ils devront être plus sélectifs quand même. Attention. Et c'est donc dans la plus grande des décontractions qu'en plus de toutes ces crapuleries, une partie des économies brutes réalisées par l'assurance maladie sur le dos, donc des travailleurs et travailleuses malades, hein, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit pour pour la diminution de 2% des arrêts de travail, une partie de ces sommes non dépensées leur seront redistribuées en partie en 2027.
Non, mais
c'est quand même vraiment, vraiment, pour une partie d'entre eux, pas tous peut-être, des ordures quand même.
C'est bien parce que c'est assez important de pas augmenter les impôts des riches, mais ça suffit pas forcément. C'est-à-dire que leur redonner du pognon, c'est quand même aussi toujours une bonne chose.
C'est un peu ça. Et puis et quand même on note que pour l'instant on est quand même dans une ambiance où je sais pas, les revendications de tout le petit patronat et de tous les plus réacs sont quand même bien accueillis quand pour les autres par exemple on donne un sacré coup de tour de vis aux chômeurs, on baisse les APL, on conditionne encore plus le RSA. Bref, vous connaissez la liste. La prochaine fois donc que votre toubib vous refusera un arrêt de travail, demandez-lui où en est la construction de sa piscine ou le prêt de sa maison secondaire. Si avec une telle victoire vous pensez qu'ils vont s'arrêter là, non, les plus libéraux de chez les libéraux, réclament désormais une consultation à 50 euros. C'était une de leurs revendications pour le parti, un peu, les syndicats un peu extrémistes. Ils avaient déjà demandé ça. Là, ils ont dit bon, on a signé, mais à contre-cœur. Donc, ils demandent une consultation à 50 euros et l'ouverture au secteur 2. Le secteur 2, vous savez, c'est ce qui permet aux médecins de faire des dépassements de tarifs. C'est-à-dire que s'il n'est pas secteur 2, il n'a pas le droit de faire de dépassements de tarifs. Et s'il est secteur 2, il a le droit de faire des dépassements de tarifs. La présidente du syndicat des médecins libéraux, le SML, compte bien aller toquer chez les ministres et parlementaires pour faire du lobbying. Elle aurait eu tort de ne pas se priver, vu comment elle est accueillie en ce moment.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et alors, une manif contre le projet d'autoroute Toulouse-Castres, la fameuse autoroute A69, était prévue ce week-end. En fait, c'est 3 jours avec différentes activités qui sont prévues, mais dont le samedi, une manif. Il s'agit de l'acte 3 de la résistance contre ce projet. Tout ça est organisé par plusieurs collectifs qui sont les Soulèvements de la Terre, un truc qui s'appelle La Voix est libre, Extinction Rebellion et la ZAD de la 69, qui est le nom d'un collectif plus que d'un endroit, parce que je crois que, si je ne me trompe pas, cette ZAD a bien essayé de s'installer, mais ça n'a pas duré 24 heures avant que les gendarmes viennent exploser tout le monde. Voilà, cette manif de ce week-end était prévue depuis bien longtemps et l'ambiance était prévue pour être familiale, festive et déterminée. Ok, mais depuis ce matin, on sait que si elle sera déterminée, elle a peu de chances d'être familiale et que pour le côté festif, eh ben, ça dépend du sens qu'on a de la fête. Bref, on devrait être parti pour une journée plutôt à la Sainte-Soline. En effet, hier devant l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a déclaré avoir ordonné au préfet du Tarn d'interdire la mobilisation. Il a expliqué que 5000 personnes, dont 600 Black Blocs, s'apprêtaient à en découdre avec les forces de l'ordre, s'en prendre au bien et attaquer des personnes. Bon, ça c'est du Darmanin qui raconte à l'avance des manifs. Aujourd'hui, dit-il, 12 unités de forces mobiles sont en route pour le Tarn. Des contrôles ont commencé à avoir lieu. Et depuis hier, des couteaux, des marteaux et des haches sont saisis dans les véhicules. Alors, on imagine bien que c'est ça, qu'effectivement, il y a des véhicules où des gens transportent des couteaux, par exemple pour leur pique-nique, que certains viennent d'acheter un marteau au bric au dépôt et que d'autres ont, pour une raison ou pour une autre, une hache. Mais on imagine, ceci dit, assez peu des gens venir avec des haches pour attaquer des CRS. Ça semble un peu crétin, ridicule, pas marché. Enfin, si vous voulez vraiment attaquer un CRS, je vous conseille pas la hache. Ça a pas l'air d'être l'arme adaptée, quoi.
En général, c'est assez drôle. Ça vaut le coup de surveiller le compte Twitter de la préfecture la veille ou le jour même de la préfecture.
Pour savoir tous les objets qui sont saisis dans les coffres.
Ils communiquent comme ça et c'est souvent assez ridicule.
C'est ça. Et parce qu'ils saisissent n'importe quoi et puis ils en font des armes dans leur tête. Darmanin a continué en lançant aux parlementaires avouer que ça n'a rien à voir avec une balade champêtre contestataire. Donc, puisque des gens, pas du tout forcément des gens qui allaient à la manif, hein, des gens se trimbalaient avec un marteau dans leur coffre. Voilà, le ton est donc donné. Alors, en face, après cette concertée, les collectifs qui organisent la manif ont signé un communiqué où ils appellent quand même à se rassembler massivement. Le ministre de l'Intérieur, disent-ils, alimente un peu plus l'autoritarisme en marche et l'atteinte à nos libertés fondamentales. Gérald Darmanin,
incroyable. Non. Moi, je trouve que c'est quand même un peu radical de dire ça.
Non, ben oui, c'est ça. Et puis, c'est toujours lui faire des mauvais procès à cet homme. On imagine bien que dans les jours qui viennent, on va entendre parler d'éco-terrorisme et que, bon, samedi, les camarades vont surtout s'en prendre plein la gueule. Par ailleurs, on peut lire sur le site de Reporter un récit de la répression des journées des 24 et 25 mai dernier, donc la semaine dernière finalement, contre Total, avant-dernière. Une manif qui était organisée par Extinction Rebellion. Alors vous pouvez aller voir l'article si vous voulez, il est très instructif, mais moi je vais extrêmement résumer. Disons que sur les 2 jours, il y a eu des nasses, il y a eu des gens embarqués, des gens laissés 6 heures dans des bus au soleil sans rien à manger ni à boire ni possibilité de pisser non plus. Et tout ça avec un statut légal pas très clair. Est-ce que c'était une garde à vue? Est-ce que c'était un simple contrôle d'identité? Auquel cas, ça aurait été trop long. Tout ça avait l'air vraiment fait juste à l'arrache pour faire peur aux gens. Enfin, faire peur aux autres gens, faire mal à ceux qui étaient là et faire peur aux autres. Disons que la répression de l'écologie continue de pire en pire au fur et à mesure que la situation de la planète s'aggrave. Et oui, parce que, et c'est là ce dont tu parlais au début du truc, une étude est parue aujourd'hui qui met à jour les données du GIEC et qui montre encore une fois que la situation est finalement pire que les pires prédictions qu'on avait faites jusque-là. L'année 2023, comme les précédentes, a explosé tous les records de chaleur sur la planète. Mais ceci dit, l'année 2022 avait déjà explosé tous les records de chaleur, l'année 2021 aussi, c'est-à-dire que chaque année est plus chaude que la précédente. Et même si, vu d'ici, c'est pas criant au niveau planétaire, le mois de mai 2024 a été le plus chaud de tous les mois de mai jamais enregistrés. Toi, tu avais même dire de tous les mois jamais enregistrés.
Oui.
Voilà. Le fameux seuil de 1,5 degré, qui, selon l'accord de Paris en 2015, devait se démerder pour ne pas dépasser... Qu'on devait, selon l'accord de Paris en 2015, se démerder pour ne pas dépasser d'ici la fin du siècle. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette COP21 en 2015. Mais à la fin de la COP21, c'était une grande victoire pour l'écologie, parce que cette fois-ci, on avait un truc concret. Alors, ce qui était bien, c'est que c'était pas contraignant. Chaque État devait lui-même se fixer des objectifs et les atteindre, et la planète était sauvée. Ben oui. Et il y avait eu des discussions sans fin pour savoir... Est-ce qu'on dit que d'ici la fin du siècle, il faut arriver à 1,5 degré, à 2 degrés, à 2,5 degrés, mais 2,5 degrés, c'est vraiment trop. Mais bon, à la fin, on s'en fout, allez, on y va, 1,5 degré. Bon, bah, finalement, ça sera fait dans les 5 années qui viennent. 80% de chances que dans les 5 années qui viennent, ça soit fait. C'est-à-dire que dans les 5 années qui viennent, il y a au moins une année, 12 mois consécutifs, où on est dépassé ces 1,5 degré. Voilà.
Sur l'épisode pluvieux là, par exemple, ça veut pas. Les températures qu'on a, par exemple, elles sont quand même légèrement au-dessus des normales saisonnières.
Oui, c'est ça. C'est qu'on a l'impression de se cailler, mais en fait, on s'est cailler par rapport à ce qu'on a vécu les quelques dernières années, mais par rapport à ce qu'on vivait il y a 15 ans, non, on a eu chaud. Voilà, on peut lire, alors par exemple, moi j'ai trouvé ça dans Le Monde, mais on peut lire tout un long article rempli de chiffres qui sont tous plus inquiétants les uns que les autres. Et quoi? Et alors, bien sûr, il y a aussi un article sur ce pauvre Antonio Guterres, là, qui est le secrétaire général de l'ONU, et qui finalement, nous, on préférait bien qu'il soit gouvernant d'un grand pays, par exemple, plutôt que secrétaire général de l'ONU, où il dit des trucs, mais tout, personne n'a rien à foutre. Alors que lui, il a l'air quand même nettement plus sérieux là-dessus et sur beaucoup d'autres choses, mais entre autres là-dessus, que les gouvernants des grands pays, d'une manière générale, et certainement que les nôtres. Et en tout cas, c'est dans l'article où on parle du discours qu'il a fait aujourd'hui que j'ai aussi appris que les gaz à effet de serre, ma foi, continuent à augmenter. Alors c'est vrai, ils augmentent moins vite. 1% d'augmentation en 2023, l'émission de gaz à effet de serre, alors qu'il y a 10-15 ans, on en était à 3% par an. Donc c'est bien en fait, à ce rythme-là, c'est vrai, il ne restera pas grand monde pour en profiter, mais un jour ou l'autre... On arrêtera d'émettre des gaz à effet. Enfin, certainement quand les gens seront massivement morts. Voilà. Donc, face à ce constat, le gouvernement français a tiré les conclusions qui s'imposent. C'est le moment de frapper fort, surtout sur les militantes et les militants écolos.
Et c'est le moment de s'écouter une petite musique. Let's see where the trouble lies. He said night, I said swoon. He said sky, I said moon. He said rock, I said roll. He said what? I said rock, rock, rock and roll. Fly in the sky till you reach your goal. Rock, rock, young or old. A man's got a will or lose control. Said, quiet down and rest. Now try once again and see if you pay.
ça met un peu de baume au cœur.
Et puis après avoir dit tellement de mal de ces crapules de Toubib, c'était pas mal de revenir sur un doc un peu cool, c'est-à-dire le Rock Doc de Louis Jordan. Et voilà, c'est tout. À vous de parler.
On va parler externalisation des frontières. Et alors là, vous allez m'excuser du nom parce que j'ai pas trouvé comment on le prononçait, mais c'est au port de Shenglin, sur la côte albanaise, qui voit s'empiler de nombreux containers. Le but des opérations, enfermer les exilés. Les exilés secourus en mer souhaitant demander l'asile en Italie. Accord signé entre les deux pays en novembre 2023. C'est une promesse de Giorgia Meloni. Si on va avoir un peu une idée de ce que représente le fascisme dans un pays, bah ça, voilà, c'en est une. Donc sa promesse, c'était qu'avant les élections européennes, les premiers demandeurs et demandeuses d'asile seraient envoyés dans ces containers. Alors si le calendrier prend un peu de retard avec ces fameux retards de chantier que tout le monde connaît, hein. Donc les travaux sont en retard, mais tout ça devrait quand même malheureusement se concrétiser. Ce projet a bien sûr reçu le soutien d'Ursula von der Leyen, qui est la présidente actuelle de l'Europe, et pour qui, bien évidemment, ce dispositif intègre parfaitement le nouveau pacte asile-immigration. J'en ai parlé longuement la semaine dernière, où effectivement le but de ce pacte, enfin un des buts de ce pacte, c'était d'externaliser les frontières, c'est-à-dire que les gens ne puissent plus rentrer en Europe, mais que leur demande d'asile soit traitée dans des espèces de hotspots à l'extérieur, pour que tout ça prenne beaucoup moins de temps et qu'on puisse les expulser plus facilement. Les exilés secourus qui arrivent ou qui auraient dû arriver en Italie seraient directement orientés dans ce hotspot afin d'être identifiés. Celles et ceux que l'Italie ne veut pas seront hébergés sur l'ancienne base militaire de Gjader, pareil en Albanie. À l'intérieur de ces centres, la loi italienne ainsi que les règles européennes s'appliqueront. J'imagine que ça, c'est un peu une obligation pour pouvoir signer de tels accords, mais bon, voilà, à peu près, je pense que c'est à peu près les seuls trucs, les seules consignes. Des fonctionnaires italiens et des représentants de l'organisation internationale assureront l'enregistrement des demandes. Donc voilà, là, c'est un peu le truc dont on parle à chaque fois qu'on parle de ces hotspots, c'est-à-dire que faut bien s'imaginer que du coup, les procédures iront très vite, les gens auront accès à très peu de documents en plus que ceux qu'ils ont pu ramener avec eux s'ils les ont pas perdus en route. Du coup, ça va donner vraiment des procédures.
Et que les vérifications que ces fameuses normes européennes s'appliqueront seront certainement faites par les mêmes personnes qui seront chargées de les appliquer. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce qu'en termes de droits et de conditions de détention, ça soit relativement trash.
C'est ça, c'est que c'est évident qu'au niveau des droits, ce sera dégradé. Sur les conditions de détention, c'est une question qui a été posée sur la sécurité des centres, par qui elle sera... Qui s'occupera de la sécurité des centres, puisque à l'intérieur, il va y avoir des fonctionnaires italiens et des représentants d'organisations internationales. Sur cette question de la police dans les centres et autour du centre, aucune réponse n'a été portée. On ne sait pas pour l'instant s'il s'agira de policiers ou militaires italiens ou albanais. J'ai envie de dire que honnêtement, je pense que ça changera pas grand chose sur le sort des gens. C'est sûr que en tout cas, si vous voulez regarder les images sur internet, vous tapez le nom du centre que j'ai très mal prononcé. Non, vous allez sur un article de Mediapart et on voit, c'est des containers qui sont empilés et on imagine quand même assez facilement que ce sera pas rigolo.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et on va au Kurdistan. Enfin, pas vraiment, mais on voyage un peu par la musique et par les informations qui nous parviennent.
Exactement, on va faire un petit point sur le Kurdistan, sur cette belle petite chanson de Groupe Yorum. D'ailleurs, on peut rappeler, pendant qu'elle passe, avant d'aller sur l'information directe, que c'est un groupe, que ce groupe qui chante cette chanson, c'est un groupe composé de dizaines et de dizaines de gens et de gentes qui ont été pourquoi tu te fous de ma gueule toi qui ont été de nombreuses fois arrêtés, torturés et qui chantent des chansons révolutionnaires dans toutes les langues du Moyen-Orient.
Voilà. C'est un groupe composé de gens d'un parti marxiste-léniniste avec lequel on aurait du mal à s'entendre plus de deux minutes si on discutait politique avec eux, mais qui font de la musique magnifique.
Alors non, il y a plein de gens différents dans ce groupe. Il y a eu des tas de générations, il y a eu des tas de gens différents. Il n'y a pas... Non. Alors je m'inscris
en
faux.
Tu t'inscris en faux.
Complètement. Alors on commence au Bakour, Kurdistan de parti kurde de Turquie. Le maire d'Akari vient d'être condamné à 19 ans de prison. Il a aussitôt été remplacé par un administrateur nommé par le gouvernement turc. Accusé de diriger une organisation terroriste armée dans le cadre d'une instruction ouverte il y a 10 ans, Mehmet Sedık Aköç avait été élu il y a 2 mois à peine, du coup aux dernières élections. Lui-même se demande pourquoi l'arrestation et le verdict tombent seulement maintenant et pas il y a 10 ans. Il était bien sûr membre du parti DEM, parti d'extrême gauche pro-kurde. Ironie du sort, le procureur qui avait lancé l'enquête il y a 10 ans est aujourd'hui lui-même recherché par les autorités turques, suspecté d'être un partisan de Fethullah Gulen, l'ancien ami du président turc Erdogan, qui a ensuite été accusé d'avoir fomenté la tentative de coup d'état de 2016. Bien sûr, la condamnation ne repose pas uniquement sur le procureur. Elle est principalement motivée par un témoin clé qui assure aujourd'hui avoir menti sous pression policière. Il a demandé à se rétracter et depuis, lui et sa famille sont la cible de menaces et de pressions de la police turque. Ce soir, le maire d'Akari dormira dans la prison de Van. Van, et là c'est la transition, magnifique, Van qui est une ville proche d'Akari et qui avait vu, lors des mêmes élections, son maire lui aussi destitué juste après les résultats. Mais, suite aux énormes manifestations qui avaient secoué la ville, il avait été réintégré. Et, pour la résistance populaire de la rue, on peut dire qu'Akari n'est pas en reste. Depuis hier, la ville est le lieu de manifestations continues, avec des charges très violentes de la police auxquelles les manifestantes et manifestants résistent vaillamment. On peut même préciser que des députés, certains même d'autres partis, ont participé à certaines manifestations. Sur le bilan de la répression policière, on n'a pas encore d'informations à ce jour, à part seulement qu'un journaliste s'est évanoui après des violences de la part de la police. Affaire à suivre. Encore au Bakour, les prisonniers politiques kurdes ont entamé une grève de parloir pour demander la levée de l'isolement d'Abdullah Öcalan, un des fondateurs du PKK, parti des travailleurs du Kurdistan. Dans leur communiqué, les prisonnières et prisonniers déclarent non seulement refuser les parloirs, mais aussi leurs 10 minutes de téléphone hebdomadaire, refuser les visites de députés et refuser de participer à leur procès. Ils demandent à être soutenus par leurs camarades de l'extérieur et terminent leur communiqué par Vive la solidarité entre les peuples. Rojava maintenant, on part au Rojava. La Turquie continue d'attaquer ce territoire du nord-est de la Syrie, géré horizontalement par les populations locales à majorité kurde. Les attaques de drones kurdes ont tué vendredi 4 combattants des forces démocratiques de syriennes. Un des contingents chargés de la défense du territoire. Et blessé 11 civils. Mardi, toujours avec des attaques de drones, cette fois sur la célèbre ville de Kobané, deux membres de protection des populations ont été blessés. Pour résumer, cette année, la Turquie a déjà mené plus de 100 attaques de drones sur le Rojava, faisant au moins 28 morts et 44 blessés. Rojava toujours, les forces kurdes ont libéré une femme et deux jeunes filles yézidis kidnappées par Daesh. Pour rappel, il reste encore des centaines de femmes et de jeunes qui n'ont pas été retrouvées après l'attaque de 2014 sur la région de Shengal où vivaient les yézidis. Les hommes ayant majoritairement été tués, les femmes et les enfants avaient été kidnappés, utilisés comme esclaves sexuels ou vendus sur des marchés aux esclaves en Irak ou en Syrie. Les forces kurdes enquêtent toujours, 10 ans après, sur les disparus et en retrouvent certaines et certains régulièrement. Euh, Kurdistan un peu plus à l'ouest. Et là, vous allez voir que les frontières du Kurdistan s'élargissent, puisqu'on parle du Pays-Bas. 122 journalistes, écrivains et professionnels des médias demandent la libération immédiate de Serdar Karakoç. Et oui, il n'y a pas que la Turquie, l'Iran ou l'Irak qui s'illustrent dans la répression des Kurdes. Même s'il fait nul doute que le gouvernement turc ait été à la manœuvre dans cette affaire. Aujourd'hui, en prison aux Pays-Bas, ce journaliste kurde a été arrêté le 23 mai sur demande du gouvernement allemand, qui demande actuellement son extradition. Il faut préciser que Serdar Karakoç est réfugié politique aux Pays-Bas depuis 23 ans. Il a toujours travaillé dans des médias kurdes, que ce soit en Turquie ou ensuite aux Pays-Bas. Il avait même survécu à un attentat à la bombe contre le journal dans lequel il travaillait en Turquie en 1994. La mobilisation pour sa libération et contre son extradition en Allemagne est en train de s'amplifier. Affaire à suivre.
Et pour finir ce Canu Info, quelques conseils de lecture. J'en avais deux. Un troisième m'a été envoyé par une... J'avais trois conseils de lecture. J'avais deux conseils de lecture et un troisième m'a été envoyé par une fidèle auditrice à l'instant. En gros, je vais commencer par les deux premiers. C'est à lire sur Mediapart. Malheureusement, il faut être abonné, mais vous pouvez toujours peut-être gratter des codes à vos potes ça tourne et ils empêchent pas trop les doubles, triples ou quadruples connexions sur Mediapart. Le premier, c'est il s'appelle Mineur Trans, c'est une série, La Fabrique d'une Panique. Alors que le 28 mai, le Sénat a examiné une loi qui vise à interdire toute transition médicale aux mineurs sous prétexte d'un rapport scientifique bidon, Mediapart s'est plongé dans cette opération anti-trans qui a eu lieu en France. C'est une série de 4 ou 6 articles vraiment intéressants. Et le deuxième, c'est Européenne 2024, au clair des programmes. En gros, même si on vote pas, bah c'est quand même toujours assez intéressant de capter les logiques des programmes dans l'Europe et de voir un peu les points qui sont soulevés. Et le troisième, donc ça concerne un peu l'information concernant l'Albanie avec cette histoire d'externalisation et d'accord en novembre 2023. Et c'est sur le site ici et ailleurs.org, c'est ici-et-ailleurs.org. Et l'article s'appelle L'Albanie des immigrants unis. Et en gros, il revient sur cet accord en partie. Enfin, ça, c'est pas tout le centre de l'article, mais ça évoque aussi un peu toute l'histoire de migration et d'émigration d'Albanie. Et ça commence par un peu dire qu'il y a énormément de gens qui partent du pays. Et ça raconte aussi comment l'Europe met la pression à des pays comme l'Albanie pour accepter ces accords de merde afin de peut-être un jour pouvoir rejoindre l'Union européenne. Voilà, donc c'est on mettra tout ça en lien sur le blog. On a fini ?
Eh ouais, on a fini, allez, on se casse.
Bonne soirée.
Merci de nous avoir écoutés et on vous laisse avec 15 minutes de bande continue et Idées Noires, l'émission de l'UCL. À la semaine prochaine.
Salut.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org. Rebelle des radios.
the street at the moment.